à toutes et à tous, curieuses et curieux, tresseurs de sorts et videurs d'amphores. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde curieuse de ce lundi 30 mars. Aujourd'hui, on emprunte des chemins sinueux faits de terre et de plantes, des chemins de temps long, d'oubli et de réminiscence, des chemins de cicatrices et de joie, des chemins de toute une vie d'où on se relève plus qu'on ne tombe. Aujourd'hui, on emprunte des chemins muletiers. Alors désolé pour cette presque homophonie un peu facile, Frédéric Mulatier, mais les concordances sont troublantes. On vous reçoit pour arpenter ensemble les sentiers de la création. Vous qui passez l'âge de 40 ans avez osé être magicien, magicien d'ose bien sûr, pour travailler l'osier et l'engrosser de terre. On vous reçoit car à partir du 1er avril, c'est-à-dire mercredi, et jusqu'au 28 juin, vous exposez avec la peintre Elisabeth Gore au château de Vauguet dans une scénographie pensée en dialogue. Vous êtes tous les deux comme deux conjoints qui vont se découvrir pour la première fois. Un peu donc comme cette émission du siècle dernier tournée manège. Des conjoints qui se reconnaissent et s'attirent par leurs forces et leurs doutes communs. On en parle dans un instant avec vous, Frédéric. Mais d'abord, c'est la bise à celui qui s'éclaircit la gorge, l'artiste du son.
Bonjour.
Oh, vous l'aurez reconnu, Sylvain. Salut, Sylvain. Et le bonjour à celle qui sculpte chaque jour un agenda singulier. Bonjour, Marion.
Bonjour.
Et puis aussi, le bonjour à Antoine, qui est là pour la première fois. Ça fait 3 heures qu'il a poussé les portes de Fréquence, mais il est déjà derrière le micro. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Qui est là pour un stage d'une semaine. Donc, on va entendre ta voix pendant toute cette semaine. Eh bien, on commence avec l'agenda.
Direction le cinéma, la dernière projection du festival au cinéma pour les droits humains a lieu ce soir à 20h à l'espace Vivance au Vence. Le film Dreamers de Stéphanie Barbet et Luc Peter y sera projeté à l'âge de 9 ans. Carlos arrive au Mexique à Chicago avec ses 3 frères et ses parents. Et le jour de ses 18 ans, son avenir devient incertain. Selon la loi américaine, Carlos est désormais considéré comme sans papier. La moindre erreur peut le conduire à l'expulsion. Entre échec et succès, Dreamers raconte l'histoire de Carlos, aujourd'hui âgé de 38 ans, de ses frères et du sort de 2,5 millions de personnes qui grandissent dans un pays qui ne les reconnaît toujours pas comme sien. C'est donc ce soir à 20h à l'espace Vivance au Vence. L'école intercommunale de Dompnac, Sablière et Saint-Mélanie est sur le point de fermer dû à la possible suppression du poste de leur enseignante. Donc face à cette situation, une mobilisation est organisée demain matin à 11h devant le siège des services de l'éducation nationale à Privas. Vous pouvez aussi également signer la pétition pour le maintien du poste de l'institutrice à l'école de Dompnac sur mesopinions.com. Soleil Launière se produira en concert au théâtre de Vals-les-Bains demain à 20h30. Donc pour rappel, Soleil Launière, c'est une artiste innue qui explore à travers ses chansons l'identité, le langage et la féminité. Elle donne corps et voix à une réflexion poétique sur les silences et les langages universels. Vous l'avez peut-être déjà entendu lors de notre Onde Curieuse de jeudi dernier. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la découvrir demain à 20h30 au théâtre des Quinconces à Vals-les-Bains. Et pour l'occasion, on vous fait gagner 2 places. Il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom et numéro de téléphone à contact@frequence7.net. Le SICTOBA, donc, qui est le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères, vous propose un atelier de compostage individuel demain à 17h au parking du Souvenir à Vauguet. Donc les formateurs vous expliquent comment bien trier vos déchets, des gestes qui peuvent paraître simples mais qui ont quand même un impact important. Donc l'objectif est aussi que vous repartiez avec toutes les clés en main pour réussir. Et pour bien démarrer, le SICTOBA vous offre aussi à la fin de la séance un kit de compostage complet et vous donne rendez-vous donc demain à 17h au parking Souvenir à Vauguet. « Accueilli en résidence par l'association Forma, les artistes Ambre Lacroix et Caspar Fink dévoileront une partie de leur nouvelle création mobile, qui est le nom de leur création, demain à 18h30 à Jaugeac, dans le parc du domaine de Rochemure, dans les locaux du parc naturel régional. Une sortie de résidence qui sera l'occasion de découvrir ce spectacle à la croisée des arts plastiques, de la chorégraphie, de la poésie et de la recherche scientifique.
Merci beaucoup Marion, ça donne envie, j'ai envie de dire, allons voir.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la main. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien.
Voir de Feu Chatterton, issu de l'album Labyrinthe, c'était en 2025. Et oui, allons voir ce que la vie nous réserve, car rien n'est jamais certain, c'est tout l'art de la vie, voire tout l'art tout court. Prendre le risque de vivre, de créer, prendre le risque par exemple de faire une exposition avec une artiste que l'on n'a jamais rencontrée, ou prendre le risque d'essayer une technique que d'aucuns disent vouée à l'échec, prendre le risque, oser essayer. Allons voir ce que l'expo Dialogue avec Frédéric Mulatier et Elisabeth Gore nous réserve. Exposition visible au château de Vauguet du 1er avril au 28 juin. Et on est justement avec Frédéric Mulatier, artiste qui travaille l'osier et la terre. On est là avec lui. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est toi qui as choisi cette chanson. Pourquoi ?
Parce qu'il y a le mot, pour moi ça symbolise, tu en parlais tout à l'heure, oser, c'est-à-dire que c'est important, pour moi en tous les cas, d'aller sur des chemins qui n'ont pas encore été ou qui ont été empruntés il y a longtemps. Et lorsque j'ai commencé à passer de la vannerie entre guillemets traditionnelle à une approche plus artistique, il a fallu oser parce que j'ai rencontré personne qui mettait de la terre sur de l'osier et qui cuisait ses pièces. Donc voilà, quand j'ai du monde qui passe à l'atelier, notamment des stagiaires ou qui viennent découvrir mon travail, c'est écrit en gros dans plusieurs endroits de mon atelier le verbe oser. Et je trouve que cette chanson justement nous rappelle, en tout cas moi me rappelle qu'il faut toujours être vigilant dans un atelier d'artiste et oser.
On va y revenir, parce que c'est vrai que c'est toute l'essence un petit peu de ton travail, semble-t-il. D'abord, j'aimerais donner la parole au silence et à une absente. Donc, puisqu'elle n'est pas là avec nous autour de ce micro, Elisabeth Gore. Elisabeth Gore qui est peintre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi, alors que vous ne vous êtes jamais rencontrés, de faire une exposition ensemble ?
Alors, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 2 ans. J'avais une exposition à Lyon, dans une galerie à Lyon, et nous avons la même galerie qui nous représente à Lyon, Elisabeth et moi. Et souvent, après une exposition, il y a un repas chez les propriétaires de la galerie, et là, dans l'appartement de la propriétaire, Sylvie Garrigue, il y avait 2 ou 3 tableaux d'Elisabeth Gore, et tout de suite, il y a eu une espèce de lien qui s'est créé. Donc Elisabeth habite dans le nord de la France, donc voilà, je ne la connais que au travers de son travail, mais tout de suite j'ai senti qu'il y avait un écho avec mon travail. Et quand le château de Vauguet m'a proposé de venir exposer, tout de suite j'ai pensé à Elisabeth. Bon, après il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, finalement ils ont décidé de la choisir. Et j'en suis hyper content, quoi. Et voilà, c'est le peu que je la connaisse, parce qu'on a quand même parlé au téléphone ensemble plusieurs fois. Elle est dans le train aujourd'hui, elle arrive à Vauguet cet après-midi. C'est quelqu'un qui est dans le partage, et je pense que ce dialogue, il ne sera pas que théorique. Il sera entre nous deux, mais il sera entre son travail et le mien aussi.
Très vivant et sans doute fertile. Qu'est-ce qui résonne entre vos œuvres ? Alors on le voit un petit peu dans cette très belle, d'ailleurs, dans ce très beau carton d'invitation, dans cette très belle affiche, qui mettent en scène vos deux œuvres en termes évidemment de couleur, de matière, mais plus encore, j'imagine.
Je pense, ce qui est commun à beaucoup d'artistes, je pense, c'est vraiment à chaque fois qu'on crée une pièce, on livre un morceau de son intimité. Et enfin, c'est quelque chose de très personnel à chaque fois. On en revient au fait d'oser, et je pense que avec les doutes qui vont avec, parce que oser c'est une chose, mais être satisfait de ce qu'on a osé, c'est encore autre chose. Et je sais que Elisabeth, pour en avoir parlé avec elle et pour avoir lu pas mal de choses qui la concernent, elle est dans ce doute, non pas permanent, mais il est présent, quoi. Et par contre, elle est également dans quelque chose d'entier quand elle travaille, quoi. Elle se livre complètement dans ce qu'elle fait, que ce soit dans la recherche ou dans la réalisation d'une œuvre elle-même.
C'est-à-dire que le doute, il n'est pas au moment de créer, mais il est avant, il peut être après, il est dans des interstices, mais pas au moment de la création. Je pose la question pour toi, par exemple.
Pour moi, il y a le bon et le mauvais doute. Il y a le bon doute, c'est celui qui permet d'avancer, de prendre des risques, parce que je pense qu'il n'y a pas de démarche artistique sans une prise de risque, pour chacune des œuvres en fait, hein, pas forcément de manière générale. Et après, il y a le mauvais doute, c'est-à-dire il y a 3 mois sans rencontrer personne, en ayant toutes les pièces qu'on a créées devant les yeux, en les trouvant toutes à force, on ne leur trouve plus rien en fait, parce que, enfin moi c'est mon cas en tous les cas, et ça c'est le mauvais doute, ça veut dire que c'est celui qui fait pas, moi qui me fait pas avancer, c'est quelque chose qui me freine totalement, et souvent il est levé par quelque chose, chez moi en tous les cas, qui vient de l'extérieur, ça va être un coup de fil d'une galerie, ça va être une visite à l'atelier, ça va être quelqu'un qui m'appelle, qui dit j'ai vu votre travail à tel endroit et tout ça, et avec des phrases positives, donc du coup ça enlève ce voile de doute, qui peut prendre une place, chez moi en tous les cas, parfois trop grande. Voilà. Mmh. C'est le mauvais doute pour moi, mais le bon doute, il est indispensable, je pense, pour avancer et pour rester dans cette espèce d'humilité et continuer à oser sans répéter forcément ce que l'on fait, quoi.
Ouais, et d'ouvrir, en fait. C'est un petit peu, c'est ce qu'on disait, c'est la question des silences, ouvrir des espaces où quelque chose puisse se déployer. S'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas ces espaces-là...
Tout à fait. Et au-delà, oui, tout à fait. Moi, j'aime bien cette porosité qu'il y a entre, qu'il peut y avoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas qu'on vienne les voir à l'atelier. Moi, je sais que cette porosité entre l'extérieur, alors l'extérieur, ça peut être un livre, ça peut être de la musique, ça peut être, mais ça peut être des visites, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de fil. Pour moi, elle est importante. Alors, des fois, elle suspend mon geste quand c'est quelqu'un qui vient à l'atelier, par exemple. Mais en même temps, ça veut dire qu'elle intervient sur ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas eu cette intervention, ce que je suis en train de faire aurait été différent. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui entre guillemets, s'interpose de manière positive dans tout ça, ou vient, ça peut être un ami, un voisin qui vient, ou un client, ou un visiteur que je connais pas, et on va échanger, et ça va nourrir, en fait, mon travail. Et cette porosité, pour moi, elle est importante. Ça veut dire que, en principe, mon atelier est tout le temps ouvert. Il y a des choses que je peux pas faire quand il y a du monde, mais en ces cas-là, j'arrête et je reprends après. Mais autrement, c'est quelque chose qui... Oui, cette communication un peu tacite qui peut se passer me plaît bien, quoi.
C'est-à-dire que si les auditrices, auditeurs sont intéressés, ils peuvent venir te voir à ton atelier qui se situe où ?
Qui se situe à Chassier, donc à côté de notre maison. Et oui, qui est ouvert, bon là, il n'y a plus grand-chose. Tout ce que, ça fait presque un an que je travaille sur l'exposition du château de Vauguet, donc mais je travaille encore. Voilà. Donc oui, mon atelier est ouvert, bien entendu, oui, tout le temps. Vaut mieux me téléphoner avant, mais j'y suis.
Et alors, pour revenir à ton travail, un petit peu à la technique, tu es venu tard à la vannerie, on l'a dit, tu avais plus de 40 ans, c'est ça ?
Exactement, oui.
Ça t'a pas suffi, t'as voulu autre chose. Pourquoi t'as voulu autre chose ? Travailler la terre également.
Alors, depuis le début, donc, moi j'ai eu une formation classique en vannerie, c'est-à-dire j'ai suivi les cours de la seule école de vannerie qui existe en France, qui est en Haute-Marne. Donc pendant un an et demi, j'ai fait cette formation. Et je suis revenu avec un bagage technique, mais technique traditionnelle, si on veut. Mais dès le début, j'ai voulu que la vannerie soit pour moi un moyen d'expression. C'était quelque chose d'important. J'étais influencé par des vanniers qui avaient déjà fait ce chemin. Alors, pas forcément avec la terre, mais qui avaient déjà fait un chemin comme ça, plus artistique. Mais pour arriver à ça, je savais qu'il fallait, enfin, j'ai vite compris qu'il fallait parfaire la technique. Donc, pendant pas loin d'une dizaine d'années, j'ai vraiment fait une vannerie. Certes un peu personnel, mais qui restait de la vannerie, des contenants, et avec une fonction éventuellement utilitaire. Et puis un jour, j'ai décidé de faire ce que je pensais être une parenthèse, mais finalement qui a été un virage à 180 degrés. Donc je suis vraiment parti dans une démarche beaucoup plus artistique. Et quand j'ai commencé à toucher la terre, c'est un peu, je le dis souvent, comme si on m'avait offert une boîte de crayons de couleur, quoi. Ça veut dire que je pouvais aller beaucoup plus loin. Parce qu'avec l'osier, je me suis heurté rapidement aux limites du matériau lui-même. Ça veut dire qu'on est dans la forme, donc, et je maintiens toujours ça. Hein, c'est-à-dire que la forme, elle est donnée par l'osier. Mais avec la terre, je peux aller beaucoup plus loin dans l'histoire que je veux raconter. Quoi. C'est quelque chose qui est, pour moi, ça. Et si on rajoute le feu à tout ça, qui lui-même fait son propre travail, ça donne quelque chose qui, enfin moi, à un moment, qui m'échappe aussi. Et ça, ça peut être jubilatoire.
C'est quelque chose, là en t'écoutant et aussi en préparant l'émission pour ne rien cacher, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est une analogie, alors tu diras si ça t'évoque quelque chose, mais sur, c'est au départ, c'est pas nié en osier, même si tu dis c'est un contenant, mais ça a évolué, ça a plus forcément cette configuration, enfin ce but utilitaire, qui renferme finalement des histoires. Et il y a, je ne sais pas si tu connais cette écrivaine Ursula Le Guin.
Oui.
Qui a écrit en 86 une théorie de la fiction panier, où elle dit, en gros, on a depuis très longtemps été habitué à une forme de fiction qu'elle appelle fiction lance ou fiction épée. En gros, c'est un héros qui va résoudre des problèmes avec la violence, qui va se battre, etc. Pourquoi ? En fait, y aurait-il pas d'autres manières de raconter des histoires ? Et elle prend justement la métaphore du panier qui, puisque dit-elle, à la préhistoire, et on en viendra donc à cette, justement, t'employer le terme primitif. Voilà, au temps premier, ça nous amènera là-dessus, mais au temps justement de la préhistoire, les chasseurs qui allaient tuer le mammouth, ça représentait très peu dans la réalité quotidienne de leur alimentation. Ce qui était le plus courant, c'était la cueillette. Et la cueillette qu'on mettait dans un panier. Donc finalement, c'est dans ce panier, dans ce grand fourre-tout, que se tissait toute la complexité des vies humaines et tout ce que ça pouvait raconter. Donc le panier, pour elle, c'est quelque chose de divers, enfin, de très divers, qui compose un peu toutes les histoires et qui ne se réduit pas à un seul et même schéma dont nous sommes malheureusement encore aujourd'hui un peu tributaires, de ce héros souvent super mal qui va sauver le monde. Voilà, un panier comme une métaphore de tous les possibles. Et
alors, je connais l'autrice, mais je connais pas ce livre. Alors, c'est très intéressant parce que la première histoire que j'ai voulu raconter, c'était l'histoire des premières poteries. Donc, j'avais imaginé que nos ancêtres se promenaient avec un panier, parce qu'on sait que la vannerie, le tressage en tous les cas, est antérieur au feu. Donc, voilà, ils se promenaient avec leur panier, ils le posaient dans la boue, ils se tapissaient donc de terre, de glaise quand il pleuvait et tout ça. Et ils se sont aperçus dans un premier temps que cette terre, elle pouvait, donc c'est le début de l'histoire en fait, elle pouvait protéger de l'air, elle pouvait protéger de la lumière aussi, éventuellement des rongeurs. Voilà, donc ils se promenaient avec leur panier, ramassaient, parce qu'en effet c'était essentiellement des cueilleurs, ils ramassaient leur baies, leurs champignons, enfin je sais pas ce qu'ils ramassaient. Et puis un jour j'imaginais qu'ils ont donc inventé le feu, ils se sont retrouvés près du feu et ils ont posé un panier pas loin du feu par hasard, par inadvertance. Et donc le panier a pris feu, ça c'est ce que moi j'imagine, c'est ma légende, c'est la première histoire que j'ai voulu raconter avec mon travail. Et donc le panier a pris feu, la terre est restée, donc pour moi les premières poteries étaient nées. Voilà, c'est la première histoire que j'ai voulu raconter, et je croyais avoir inventé une légende super intéressante et tout ça, mais en fait pas du tout, parce que c'est à peu près ce qui s'est passé, parce qu'après j'ai été en contact avec une chercheuse du CNRS, Magali Culin, on a échangé par mail, et elle m'a envoyé toute une documentation scientifique sur des fouilles qui avaient été faites, où on retrouvait non pas des traces de végétaux qui avaient été tressés, mais des empreintes, par contre, de ces végétaux, qui attestaient un petit peu cette théorie. Alors, eux, ils étaient plus intelligents que moi, c'est-à-dire qu'ils faisaient des formes évasées, donc ils utilisaient le moule en osier plusieurs fois pour faire leur poterie, alors que moi, je suis plutôt dans des formes concaves, comme ça. Donc, chaque pièce, l'osier est enserré, est enfermé, dans la terre, et une fois que la pièce a cuit, le moule, entre guillemets, disparaît, quoi. Il reste présent que par son empreinte, en fait.
Mais ce lien, justement, avec le passé, c'est quoi ? C'est une envie de renouer avec des gestes premiers, on revient un petit peu au dialogue avec Elisabeth Gore, parce que chez elle aussi, il y a cette envie aussi de renouer avec des matériaux ou des gestes, une attitude.
Oui, il y a toute une notion liée à la mémoire aussi, aux mémoires en fait. Donc ça va être la mémoire. J'ai entendu une phrase l'autre jour qui était, alors faut pas que je dise de bêtises, offrir une mémoire à quelque chose qui est éphémère. Et c'est ça. Et en fait, le geste quand on travaille la terre, l'osier ou la peinture ou quoi que ce soit d'autre, il est forcément éphémère parce qu'il dure le temps du geste, mais en fait reste imprimé ce geste dans, et donc on lui donne voilà, une trace. Et le fait, moi, de confier mes pièces au feu, l'osier, si on part du départ, la terre, elle a été tutrice de l'osier. L'osier a poussé dans la terre. Moi, avec mon travail, j'inverse ça, c'est-à-dire que l'osier, quand la terre est crue, devient tuteur de la terre. Et quand je cuis mes pièces, enfin quand je confie mes pièces au feu, parce que c'est vraiment un travail à part entière dans lequel j'interviens pas, je le démarre, c'est tout. À partir de là, la terre reprend son autonomie et l'osier ne disparaît pas complètement, parce que forcément, à plus de 900 degrés, il brûle, mais il reste présent par son absence, en fait, par ses traces, par son empreinte, quoi. Et le travail d'Elisabeth Gore, et on voit que toutes ces toiles sont empreintes, gestes, de matière, de couches. La galerie à Lyon me disait, quand elle parlait du travail d'Elisabeth et du mien, le point commun, c'était le palinceste. Alors, je ne sais pas ce que c'était le palinceste. Je peux l'expliquer rapidement. C'est vraiment, à l'époque, les moines...
Palimpseste.
Palimpseste, oui, voilà, exactement. D'accord. Oui, pardon.
Oui, parce que palinceste, ça voudrait aussi dire autre chose. Palin, c'est aller de droite à gauche et de gauche à droite. Donc, il y a aussi...
Palimpseste, c'est vraiment les moines qui réécrivaient sur des vieux parchemins. Donc, c'était des écritures.
Exactement. En fait, c'est le phénomène de gratter, exactement. De recouvrir. Et de...
Exactement. Et c'est un point commun, je pense, entre le travail d'Elisabeth et le mien. Et c'est peut-être de tout ceci que naît le dialogue, en fait.
Antoine, peut-être, tu me dis, tu avais envie de poser une question, alors on l'a un petit peu abordée, mais...
Ouais, pour moi la question elle est déjà répondue, c'est l'histoire de l'osier en préhistoire, tout ça, c'est le rapport avec le temps, il a déjà été répondu pour moi.
D'accord, ok. C'était ça qui t'intéressait aussi, qui te questionnait dans le travail, c'est ce rapport au temps, qu'est-ce que tu...
Alors... Là, en l'occurrence, moi, je vais chercher dans les origines assez lointaines mon travail, enfin assez originel en fait. Mais le temps, quand je suis à l'atelier, il disparaît. Moi, pour créer une pièce, il me faut peut-être une semaine à 10 jours à peu près, sans parler de la cuisson ni quoi que ce soit. Donc le temps, il est à l'atelier, il est suspendu. Voilà, il est suspendu. Tu parlais de silence tout à l'heure. Ça peut être au silence, ça peut être avec des visites, ça peut être avec de la musique, souvent de la musique d'ailleurs. Il n'y a plus de temps en fait. C'est vraiment quelque chose qui est... voilà, même au niveau de la cuisson, là j'ai deux pièces qui sont en train de cuire. La cuisson sera finie, le temps de cuisson sera fini quand le four sera froid en fait. Voilà, tout simplement. Avec le vent qu'il y a, en ce moment, ça s'accélère un peu, on va dire.
Et on revient aussi avec cette notion que tu as employée tout à l'heure. Tu as dit « je confie les œuvres au feu ». C'est-à-dire qu'il y a une question de confiance. Confiance, finalement, en quelque chose aussi d'aléatoire. Tu n'as plus de contrôle, tu n'as plus de maîtrise. Il y a autre chose qui se produit, là. C'est aussi ce jeu de... ta place, c'est à la fois de maîtriser, de contrôler, de donner des impulsions, puis plus rien, de laisser l'espace à ce qui se passe. C'est ça ? C'est un peu dans cette tension.
Mon travail, quand une pièce sort du feu, je la sors du four, donc c'est un four à bois et sciure de bois, je ne touche plus la pièce, je la nettoie, je mets une cire incolore dessus, c'est tout. Parce que pour moi, le travail du feu, c'est un travail à part entière. La pièce, si elle est réussie ou si elle reste intacte après la cuisson, ça veut dire que j'ai fait du bon travail en amont. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la faute du feu. Si jamais j'ai une pièce qui a explosé il y a un mois, j'en présente quelques morceaux au château de Vauguet justement pour montrer que le chemin, il n'est pas tout le temps linéaire. Et c'est moi qui ai fait des erreurs. Et je sais exactement l'erreur que j'ai faite, en fait. Enfin, une de celles que j'ai faites. Donc, en effet, le feu, il fait son travail à part entière. S'il y a trop de vent... et que je décide d'allumer le four quand même, c'est mon problème, quoi. Le feu, il fait juste son travail. Mais il y a un côté aléatoire. Ça veut dire, là, les pièces que je vais sortir du four tout à l'heure, elles sont censées être dans des nuances de bleu. Ça se trouve, elles auront viré au gris avec une dominante rouge. Je ne sais pas, en fait. Même moi, j'ai souvent la surprise de ce que je découvre en ouvrant mon four.
Et est-ce qu'il t'arrive d'être déçu ? ou pas.
Oui, oui, il m'arrive d'être déçu. Donc, oui, il m'arrive d'être déçu.
Mais sur le moment, peut-être parce que tu as des attentes, mais si tu les regardes un petit peu après, est-ce que...
Alors, il y a des pièces... En fait, pour moi, au tout début, il y a des pièces qui ne me plaisaient pas. Je les cassais, je les jetais ou je les mettais au fond d'une étagère de mon atelier. Après, je me suis rappelé la phrase d'un de mes profs de vannerie, de mon prof de vannerie, qui sera là d'ailleurs, qui fait la route pour venir au vernissage jeudi, qui disait « Personne n'a le monopole du bon ou du mauvais goût ». Donc, pour moi, il n'y a pas des belles pièces et des moins belles pièces. Par contre, il y a des pièces qui racontent quelque chose, qui peuvent être différentes de ce que moi je voulais raconter, et il y a des pièces qui racontent rien du tout. Celles-ci, je les montre pas. C'est pas qu'elles me déçoivent, c'est que elles sont plates.
Stériles. Ben voilà. Elles sont stériles.
Il y a pas d'âme, il y a rien du tout dedans. Et donc à partir de là, je préfère soit les détruire, soit les mettre dans un coin et les réutiliser pour autre chose. Quoi.
Mais est-ce qu'il y a des œuvres qui donc auxquelles tu prêtais une histoire ou et finalement qui avec le regard d'un visiteur, d'un regardeur, justement, t'ont éveillé d'autres histoires. Et là, tu t'es dit, ah mais voilà, mais cette œuvre, en fait, moi, je l'ai conçue comme ça, mais elle raconte tellement d'autres choses et des choses qui me plaisent encore plus que ce que j'imaginais.
Voilà, ben alors, j'utiliserai pas plaire, mais je découvre des fois des choses sur des œuvres. Alors, c'est pas toujours conscient l'histoire que je veux raconter dans mon travail. Mais par contre, certaines démarrent sur une histoire, c'est clair. Et souvent, mais vraiment souvent, et pour moi c'est un énorme plaisir, c'est quand elles racontent une autre histoire. Ça veut dire quand la personne qui la voit va interpréter mon travail d'une manière totalement différente de ce que moi j'ai voulu y mettre. Donc ça, pour moi, quand c'est comme ça, c'est une réussite. Déjà, c'est une réussite quand la pièce raconte une histoire, qu'elle n'est pas vide, comme tu dis, sans âme. Mais si en plus elle raconte une autre histoire que celle que j'ai voulu raconter, ou une émotion. Enfin, pour moi, on n'a pas parlé d'émotion, mais tout se joue autour de ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté des œuvres chez moi, souvent, c'est des gens qui ont ressenti une émotion en l'envoyant, quoi. Voilà.
Et quelle est l'émotion ? Il nous reste plus aucune minute, mais quelle est l'émotion ? quelle est l'émotion qui te met le plus en état de créer ?
C'est difficile de répondre, je dirais. Enfin, celle que je veux le plus retranscrire, c'est sûrement la sincérité, quoi. C'est-à-dire d'être vraiment dans. Non pas dans le faire, mais vraiment dans le créer. Donc c'est pas tout le temps simple, mais autrement, une émotion, ça serait peut-être la nostalgie, peut-être. C'est peut-être elle qui... Voilà, souvent les musiques que j'écoute ont ce petit fond un peu nostalgique. Parfois ça peut être gay, mais voilà, j'écoute souvent du Bachung ou ce genre de choses qui peuvent être... qui sont pas forcément c'est pas l'interprète le plus gay, voilà, les plus festives, mais j'ai besoin de ça pour parfois
pour te mettre en
ouais. Voilà, ou du silence d'ailleurs.
Et juste une dernière question, j'ai lu que pour toi tout naît des mots, alors donc des mots, puis une esquisse, puis l'œuvre. C'est, semble-t-il, si j'ai bien compris, la démarche. Alors, je me suis posé la question, est-ce que, tu parlais d'émotion, est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre les émotions et le geste, et qu'entre les émotions et le geste, il faut la médiation des mots du langage, intellectuel, c'est-à-dire, ça ne se passe pas directement entre les émotions et le geste, il faut que ça passe par les mots.
Ben chez moi, ça passe par les mots plus que par le dessin, par exemple. Le dessin, il vient après, il est souvent technique, quand il y a un dessin. Par contre, il y a quasiment tout le temps les mots. Alors, ça peut être des mots entendus aussi, c'est pas forcément des mots que j'ai écrits. Ça peut être des mots, et ça, c'est important pour moi, prononcer à voix haute dans l'atelier, par exemple. J'ai besoin, des fois, d'entendre les mots que je prononce moi-même plutôt que de les lire ou même que de les écrire. Donc, c'est un point important parce que ça donne... Chez moi, hein, c'est très particulier en fait, mais ça donne corps à une émotion en fait. Et en fait, le fait de prononcer les mots à haute voix par exemple, de les écrire aussi, c'est comme une espèce de vibration. Ça veut dire que là, tu parlais d'émotion, c'est difficile de répondre par une émotion. Mais parfois, quand je parle seul dans mon atelier ou que je parle, je peux crier aussi, hein, c'est pas forcément. Mais l'émotion, elle est vivante en ces cas-là. Elle n'est pas juste écrite, représentée par un mot. Il y a vraiment le son, il y a vraiment la vibration, et à partir de là, oui, ça arrive, c'est ce que tu disais, je vais arrêter parce que je suis peut-être un peu trop bavard, ça se passe entre la tête et le cœur, quoi. Et quand on arrive, entre la tête et le geste et la main, quoi. Et quand on arrive à cet équilibre un petit peu médian, c'est le moment jubilatoire. Il n'arrive pas tout le temps, mais quand il arrive, c'est assez jouissif, si je peux dire.
Allez voir donc ces œuvres, les œuvres de Frédéric Mulatier et d'Elisabeth Gore. Elles seront exposées au château de Vauguet à partir du 1er avril. Voilà, Dialogue, ça s'appelle. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu à ce micro.
Merci à vous tous, et puis à bientôt.
À bientôt. Merci, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Merci, Antoine, pour ta première participation. Merci, Marion, pour la préparation de l'agenda et de l'émission. On se retrouve demain. Pourquoi ? On ne sait pas encore. Suspense. Non, mais d'abord, reste à l'écoute de Fréquence 7. Oui, c'est les programmes. J'en oublie presque. À 13h, Sam Travail, votre chronique justement sur le travail. À 15h, le Telex, vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Solidaire d'abord. Et à 21h, la rediffusion de Hexagone Live, consacrée à Marillion, le groupe néo-progressif qui est à l'honneur ce soir avec le concert à Bercy. C'était en 1987. Ciao.